Alors maintenant, on peut peut-être passer aux sources clariennes. Vous pourriez peut-être nous présenter peut-être le travail que vous faites avec Jacques, avec l'équipe autour de Jacques, cette espèce de tandem un peu intéressant, particulier, que vous vivez avec lui, et puis nous dire ce que c'est, finalement, ce que sont ces fameuses sources clariennes. Et puis peut-être s'expliquer avec cet adjectif qu'on utilise aujourd'hui et qu'on n'utilisait pas tellement avant, de clarien, clarienne, non ?
Alors clarien, bien vous voyez, ça découle directement de clair, hein, comme on dit franciscain, François franciscain, clair, clarien. Ça nous vient, je pense, d'une tradition anglophone. Depuis très longtemps, ils utilisent le mot clarion pour signifier la partie féminine du charisme franciscain et qui est marquée par la présence de Claire. Alors, ce que nous vivons par rapport aux sources clariennes, eh bien, ça a découlé de cette première traduction qui a été faite des sources franciscaines. Et Jacques, quand il a terminé la traduction des sources franciscaines, a dit un jour, mais pourquoi pas Claire ? Et les Clarisses de France ont entendu cette demande et ont répondu présente, en fait, pour que cette traduction se fasse. Nous avons donc entamé un dialogue avec Jacques Dallarin pour voir un petit peu. Lui, il avait un projet déjà parce qu'il habite énormément en Sainte-Claire et il avait déjà un projet bien sûr dans sa tête qui est très très intéressant. Il a demandé, les sources vont être entièrement retraduites, même les écrits qui avaient été traduits dans les sources chrétiennes, hein, avec François. Tout est entièrement traduit, soit par lui, soit par Armel Le Huérou. Ils ont fait une équipe beaucoup plus réduite, parce que le corpus est aussi beaucoup moins important, hein, que François. Mais tout est retraduit, même les lettres, la règle, le testament. Donc il y a un projet en trois parties. La première partie va s'intituler « Claire, indigne servante du Christ ». L'introduction va être faite par Alfonso Marini et c'est la traduction des lettres, de la règle, du testament, de tous les écrits de Claire. Donc là, on va nous présenter la figure de Claire à travers ce qu'elle a écrit. Alors, il n'y a pas de grande découverte, hein. On ne va pas avoir une cinquième lettre à Agnès de Prague ou quelque chose de nouveau, hein, mais en fait, cette traduction va être très intéressante parce qu'elle, d'une part, elle va être un peu le produit de tous les travaux qui ont été faits dans le monde entier, parce qu'il y a eu des traductions en espagnol, en anglais, une révision de l'anglais, il y a un nouveau corpus qui se fait en allemand, les sœurs Clarisses italiennes ont fait un énorme travail, et donc Jacques Dallarin est au courant de tout cela, et va faire va nous permettre en fait d'entrer dans toute cette recherche en français. Ça, c'est très intéressant, en apportant bien sûr son génie propre, hein, parce qu'il est très intéressant et il aime énormément Claire. Et puis, donc cette première partie. La deuxième partie va être attendez, il faut que je regarde. Excusez-moi, j'ai un trou, mais je me suis mis des antisèches à côté. De la pierre précieuse à la sainte. Voilà. Donc, cela va porter sur les témoignages de la constitution de la sainteté de Claire. C'est-à-dire le procès de canonisation, la vie de Thomas de Celano en particulier, mais aussi beaucoup d'autres documents, dont certains inédits en français. C'est Marco Bartoli qui va être chargé de l'introduction, c'est un des plus grands spécialistes, hein, pour Claire aujourd'hui. Et donc nous allons voir la pierre précieuse, c'est la citation que Thomas de Celano fait dans la première vie de Saint François, dans un texte, dans la première vie de Saint François de Thomas de Celano, il y a un texte qui parle de Sainte Claire et de ses sœurs. Et Thomas appelle Claire la pierre précieuse de tout l'ordre. Et c'est très tôt dans l'histoire franciscaine et l'histoire clarienne, puisque c'est tout de suite après la mort de François, donc Claire a à peu près 35-36 ans. C'est très très tôt. Et comment va se construire aussi l'image de la sainteté de Claire. Et la troisième partie va considération tous les documents relatifs à l'organisation institutionnelle des sœurs Clarisses. Et l'introduction sera faite par Maria Pia Albertoni. Le titre en sera « Du monastère de Saint-Damien à l'ordre de Sainte-Claire ». Voilà, donc en fait, on va couvrir un petit peu tout ce qui touche Claire. Sa personnalité, autant qu'on puisse le faire à 800 ans de distance, hein. À la fois sa personnalité, à la fois la construction hagiographique qui s'est faite autour de ce qu'elle a été, et aussi la construction législative qu'est devenu l'ordre de Sainte-Claire après sa mort et dans le siècle qui a suivi. Voilà donc un travail qui va être très intéressant. Il se fait en lien avec un groupe de Clarisses. Grâce à Internet, nous pouvons même avoir une sœur Clarisse du Canada. Il y a sœur Claire de Valleyfield qui travaille énormément sur Sainte-Claire. Il y a aussi sœur Catherine de Nantes. Il y a les sœurs de Chamalières, sœur Marie-Colette de Nice que vous avez eue, je crois, un jour à la bibliothèque des Capucins. Il y a aussi les sœurs de Paray-le-Monial et une sœur de Poligny qui relisent les traductions. Et qui sont un petit peu la référence spirituelle, parce que Jacques Dallarin et Armel Le Huérou font une traduction de grands spécialistes et d'historiens, et nos sœurs font cette relecture par rapport au charisme et par rapport à cette tradition vivante qui nous traverse à travers 8 siècles et que nous essayons de transmettre pour qu'il y ait non seulement un travail intellectuel de grande envergure, mais un travail intellectuel qui soit tissé de cet apport spirituel qui nous fait vivre et notre vie aujourd'hui.
Bien, alors j'appelle tous ceux qui sont à côté de moi, de fait, à poser des questions. Moi, je peux continuer à vous en poser très longtemps. Je vais continuer, mais n'hésitez pas. Juste une question sur la méthode, finalement. Par rapport au premier totum, j'ai l'impression que la méthode est légèrement différente. Il y a un engagement des Clarisses en tant que telles par rapport aux spécialistes, aux universitaires. J'ai l'impression que vous vous positionnez un peu différemment que les frères par rapport, enfin, peut-être que François pourrait compléter, par rapport au totum de François. Est-ce que vous le percevez et est-ce que ça apporte des fruits, cette collaboration originale ?
Eh bien, c'est vrai que... Enfin, moi, je n'étais pas présente, hein, au premier totum, donc je ne sais pas, mais Jacques nous a dit que, effectivement, ce travail très en collaboration, parce que comment ça se passe ? Jacques et Armel font les traductions. Mon travail à moi, c'est de faire le lien avec les Clarisses et de faire la synthèse de tout le travail qu'elles font. Elle relise... Et il y a parmi elles des sœurs vraiment spécialistes, hein, qui travaillent très à fond certaines questions. Donc elles relisent, et Jacques nous a dit que c'était une relecture extrêmement précise et minutieuse, un travail de bénédictin. Donc elles relisent cela. J'envoie une synthèse à Jacques et à Armel qui retravaillent toutes les remarques que font les sœurs. Et ensuite, ils renvoient le travail qu'ils ont fait. Alors, in fine, bien sûr, c'est le traducteur qui signe la traduction, qui choisit quand il y a une... par exemple, quand on ne sait pas exactement, parce que certains mots, c'est un petit peu difficile hein, de traduire sans trahir, hein, comme on le sait. Donc, in fine, c'est le traducteur qui va choisir, mais en ayant toujours pris en considération toutes les remarques qui ont été faites. Et par exemple, j'ai un exemple très, très précis en tête, puisqu'il est très récent. Nous avons une réunion il y a 15 jours. Jacques a changé sa position par rapport au testament et à la bénédiction de Sainte-Claire. Au départ, il pensait ne pas du tout se positionner par rapport à l'historicité du testament et de la bénédiction. Il y a eu un débat depuis 20 ans par rapport à ce testament en particulier, puisqu'il n'y avait pas de document manuscrit. Le premier document qui parlait du testament était paru dans les annales de Wadim, donc vous voyez, c'était 3 siècles hein, après. C'est très tardif sur le plan historique. Ensuite, on avait trouvé des documents manuscrits, mais on les faisait remonter à la réforme des observants, en disant que certains monastères, voulant appuyer sur la pauvreté, avaient composé un écrit et l'avaient signé pour Claire, en fait, hein, pour marquer leur désir de vivre la pauvreté et dire que Claire appuyait ce projet. Au Moyen Âge, c'était assez courant, hein, de faire cela. C'est pour ça qu'il y avait des pseudos Denis, voilà, il y avait pseudo Claire. Mais on a prouvé dernièrement que le texte de Mécide, où il y avait la reproduction du testament de Sainte-Claire avec le privilège de pauvreté, était de la main de frère Léon. Et donc là, historiquement, il y avait... Alors après, on a dit que c'était frère Léon qui avait écrit. Bon. Mais Jacques, nous avons tenu fermement que le testament est de Claire, c'est évident. Enfin, nous ne sommes pas historiennes, mais nous recevons Claire aussi d'une autre manière. Enfin, il y a à la fois la tradition historique... Il y a le flux historique qui est aléatoire d'une manière certaine, là, pour le coup, puisque les guerres, les destructions, les personnes qui retiennent tel texte et pourquoi pas tel autre, enfin. Et puis il y a aussi cette tradition vivante qui est comme un... vous savez, chez nous, ici, dans le Jura, il y a ce qu'on appelle des résurgences. Par exemple, la source du Lison, qui est magnifique, c'est une résurgence. Il y a des fleuves souterrains qui sortent un jour comme ça et qui viennent en fait de très loin et de très profond. Et il y a une tradition spirituelle qui est faite comme cela, il me semble. Nous le vivons ici à Poligny. En étant fondée par une sainte, on sent cette transmission qui ne se fait pas uniquement par les écrits, mais par la vie. Par la vie, par ce mouvement qui a été donné à l'origine et qui donne un élan, un dynamisme qui, quand il est donné dans une grande foi et dans vraiment un don total à Dieu, en fait, va jusqu'à la fin des temps. Et nous vivons cela vraiment. Et je me rends compte que, bon ben voilà, pour toutes les Clarisses, c'était évident que le testament était de Claire. Et voilà que les historiens sont d'accord avec nous aujourd'hui. Et Jacques a changé son opinion, puisque maintenant, dans l'introduction du testament, il écrit que le testament et la bénédiction sont d'elle. Parce que pour la bénédiction, il y a quelque chose de magnifique qui ne s'est jamais vu dans un texte médiéval, en tout cas. Après, je ne sais pas si dans les autres temps, on a pu le voir. Mais c'est que Claire, quand elle écrit la bénédiction, écrit au masculin et au féminin. C'est-à-dire que quand elle donne la bénédiction, elle dit « Je vous bénis autant que je le puis et plus que je le puis de toutes les bénédictions qu'un père ou une mère spirituelle donnera à ses fils ou filles spirituelles. » Si c'est un homme qui écrit, ça je cite Jacques, quand c'est un homme qui écrit, le masculin pour lui englobe le féminin. Il n'a pas besoin de mettre le féminin. Quand c'est une femme qui écrit, elle écrit soit au féminin, si elle met le masculin, elle rajoutera le féminin. Et donc c'est un signe que cette bénédiction a été écrite par Claire. Donc pour nous, c'est très beau ce cheminement qui a été fait, et c'est très beau de voir aussi l'humilité intellectuelle qui est très grande de Jacques Mallarin.
Avec cette nouvelle traduction des sources clariennes, est-ce que le visage de Claire se modifie? Est-ce que pour vous, personnellement, est-ce que le visage de Claire s'est modifié?
Pour moi, non. En ce sens que, la nouvelle traduction ne m'apprend rien, au contraire. Mais, si vous voulez, il y a une présence vivante de Claire qui est donnée par la communion des saints. Il y a un engagement de Claire auprès de chacune de ses sœurs. Pour nous permettre de vivre pauvrement, certes, mais avec amour, cette vie qu'elle nous a laissée. Mais je suis certaine que, effectivement, ce travail va permettre de découvrir ce véritable visage qui est très très beau, qui est le visage d'une femme embrasée de l'amour du Christ, qui peut vivre une liberté, la liberté des saints, au sein de l'Église.
On n'entend plus, là.
Ah, qui peut vivre, vous m'entendez, là?
Oh, ouais.
Qui peut vivre la liberté des saints dans une fidélité inouïe à l'Église et en même temps dans une grande liberté pour que le charisme vive. C'est une femme qui est, en tout cas qui m'apprend, moi, à être femme et à aimer. Et il y a quelque chose de très vivant dans cette relation que je ressens très profondément. Et je trouve que le travail des sources clariennes aujourd'hui va apporter justement cette, si vous voulez, et c'est Jacques Dallarin, c'est encore une image de qu'il a donnée que j'ai trouvée très juste. Il y a encore peu de temps, on voyait clair un peu comme en deux dimensions. Oui, certes, c'était une sainte de l'ordre. Certes, elle avait écrit une forme de vie, mais on se disait, elle a beaucoup recopié François. Enfin, elle n'est pas elle-même créatrice. Hein, et puis, c'est une femme. Voilà. Dans un monde religieux où ce sont les hommes qui écrivent, où ce sont les hommes qui pensent. Hein, jusqu'à il y a peu, quand même. Hein, il faut bien le dire. Et savez-vous que, je reviens après à cette image, hein, mais savez-vous que c'est la première femme à avoir écrit une forme de vie pour des femmes il y a 800 ans. Donc dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la spiritualité, c'est quelque chose d'inouï, au point que le Centre National du Livre a donné 50% de subventions pour la traduction des écrits uniquement à cause de cela. Et parce qu'il y avait Jacques Dallarin aussi, hein. Bon. mais pourquoi est-ce que l'Église en a fait si peu cas pour 600 ? Il faut aussi se le demander, hein. Et donc, et Jacques a donné cette belle image, c'est que aujourd'hui, le visage de Claire va prendre du relief et de la couleur. On va s'apercevoir, grâce à tous ces écrits, on va pouvoir percevoir un peu mieux, autant qu'on peut le faire et avec humilité, parce que 800 ans nous séparent d'elle, une psychologie très différente. Hein, donc il faut le faire avec beaucoup d'humilité, mais on va s'apercevoir que cette femme, elle a une présence, elle a un charisme, elle a une voix qui est vraiment particulière et qui a beaucoup d'harmonique, beaucoup de richesse, beaucoup de présence. Et on va aussi s'apercevoir comment les sœurs, parce que ça sera la troisième partie de ce livre, comment les sœurs se sont aussi appropriées de l'image de Claire. Par exemple, Nuremberg, les Clarisses de Nuremberg, très très vite ont été un centre intellectuel très important. Ça, moi, ça je l'apprends, je ne le savais pas. Voyez, voilà un peu comment je perçois les choses.
Bon, est-ce qu'il y a des questions qui viendraient de vous, alors là?
Oui. Pas dans l'immédiat, il faudrait que tu me passes le fantôme clarien, l'ancien, que je jette un œil. Merci.
Ah. Je vais poser une question.
Allez-y.
Je ne sais pas si elle m'entend.
Non, non. Il faudra me traduire les questions, parce que je n'entends pas très bien.
Oui. Rapprochez-vous et puis on va.
Vous avez fait allusion à un certain nombre de traductions dans d'autres pays. Allemandes, traductions en espagnol, en anglais, en allemand.
Donc, en italien.
En italien, chacune révèle une sensibilité différente, un éclairage différent peut-être de Claire, mais est-ce que, parce que là vous nous éclairez par rapport à une approche française, mais est-ce qu'on a tiré déjà des enseignements des autres regards par rapport à cet enseignement de Claire à travers les autres pays où ils ont tous forcément une autre sensibilité différente de la nôtre?
Traduit à partir de quoi, en fait? C'est de l'italien ou c'est du latin?
Oui. Quelle était la base de la traduction?
La base de la traduction, ce sont les textes latins. Ce sont les textes latins et Jacques a fait des choix particuliers. Les textes qui semblaient les plus sûrs. Alors moi, je suis pas assez spécialiste pour vous dire quels sont exactement les textes, hein, mais ce sont des textes latins qui ont été choisis. Au niveau de la sensibilité des autres cultures, je pense que effectivement, cela va passer dans le travail de Jacques, en ce sens que, comme je vous l'ai dit, comme il l'a fait pour le travail avec l'équipe des Clarisses, Jacques est loin d'être un homme qui pense qu'il a la vérité absolue. très très loin. Je pense que vous avez déjà entendu. C'est un homme d'une grande humilité intellectuelle. C'est un véritable intellectuel. Et il entend. Alors il a ses positions qui sont nettes, hein. Mais il entend tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Il a été lui-même vérifié des choses dans des textes en Italie qui avaient été dites dans certaines aires linguistiques, mais non vérifiées pour voir qu'est-ce que c'est qu'il pouvait intégrer ou pas. C'est un travail extrêmement sérieux. Alors, j'entends bien quand nous travaillons qu'il a en tête tout ce qui se dit et se pense, enfin autant qu'on peut le faire, hein, dans le monde, hein, dans les aires linguistiques différentes. Mais lui, ensuite, eh bien, il se positionne en tant que lui, historien, bien sûr.